autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec Jérémy Besset à la réalisation. C'est bientôt Noël et les parfums envahissent les écrans publicitaires. Ils représentent un marché commercial très important, mais la science intervient aussi dans leur fabrication. Comment les parfums font-ils pour nous envoûter? Quel rapport entretiennent-ils avec le sexe et la séduction? Les chimistes peuvent aujourd'hui répondre à certaines de ces questions. D'ailleurs, comment fabrique-t-on un parfum? Comment passer de la matière première que l'on trouve dans la nature aux flacons vendus en commerce? Comment faire de ces matières des sources de développement durable pour les pays qui les produisent? Pour découvrir les dessous des parfums et pénétrer cet univers qui marie la science à l'art, nous recevons Roland Salès. Roland Salès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, vous avez publié aux éditions Quai, votre dernier livre, « Faut-il sentir bon pour séduire ?». Vous n'êtes pas parfumeur de profession, mais vous vous intéressez à la recherche fondamentale dans l'odorat. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous travaillez à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique.
C'est ça, l'INRA donc s'intéresse à toutes les filières des productions agricoles. Et bien entendu, quand on s'adresse au consommateur final, qu'il soit humain ou animal d'ailleurs, puisqu'on s'occupe de l'animal, eh bien, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle son goût, c'est-à-dire essentiellement à l'odorat.
Donc vous vous intéressez à la façon dont notre nez perçoit les odeurs et vous vous intéressez donc aux rats, mais aussi aux humains et notamment donc aux parfums. Hein. Donc dans votre livre, on apprend plein de choses sur les parfums, par exemple, c'est entre le mois de septembre et de décembre que les marques de parfums réalisent l'ensemble de leurs ventes et que le prix de revient d'un parfum est de l'ordre de 10% par rapport au tarif, disons, des publicités.
Du prix de vente final.
Du prix de vente final. Hein. Donc nous allons découvrir cet univers pour se mettre dans l'ambiance des parfums. Écoutons ces extraits de la série Tous les parfums du monde qui a été récemment diffusée sur Arte.
La lavande fine est la plante emblématique des paysages du sud de la France. En la distillant, on obtient une huile essentielle raffinée qui entre dans la composition des plus grands parfums.
Vous ne trouvez pas qu'il y aurait comme une drôle d'odeur?
La Nouvelle-Calédonie est un des endroits du monde où le milieu naturel reste encore remarquablement préservé. Parmi toutes les essences qui se développent naturellement ici, il en est une qui a accompagné et inspiré les hommes depuis la nuit des temps, le santal.
Une drôle d'odeur?
Chaude, gourmande, vanillée. Les adjectifs peinent à décrire le parfum envoûtant de la fève tonka, l'un des ingrédients naturels les plus précieux de la parfumerie de luxe.
Ça sent divinement bon.
Ylang Ylang est d'abord le nom d'un arbre. Les spécialistes l'appellent Kananga odorata, l'arbre qui embaume en raison de l'odeur que diffusent ses fleurs quand elles parviennent à maturité.
La série « Tous les parfums du monde » récemment diffusée sur Arte, une série proposée par Olivier Julien. Donc Roland Salès, dans ce que vous venez d'entendre, il y a des odeurs qui vous sont venues à l'esprit?
Bien sûr, la lavande, pour un Européen, c'est une odeur de référence avec toute sa finesse et toutes ses déclinaisons, puisque les parfumeurs savent très bien distinguer l'origine des lavandes, selon qu'elles viennent de Provence, d'Italie, d'Espagne.
Uniquement à l'odeur, en fait.
Uniquement à l'odeur, oui.
La lavande, on apprend aussi dans ce documentaire qu'elle est souvent, et voire toujours, associée à l'idée de propreté. Mais comment cela se fait alors?
Alors ça vient en fait de son introduction dans les produits domestiques et dans les produits de lessive ou d'entretien. Il y a évidemment la vieille tradition de nos grands-mères de mettre des sachets de lavande dans leurs armoires pour embaumer le linge qui était stocké. Donc dans cette lignée-là, les fabricants de lessive ont ajouté parmi les premiers parfums la lavande dans leurs produits.
Et il y a aussi, ce qu'on apprend dans cette série, il y a aussi des produits beaucoup moins connus connu, mais qui entre dans la composition de tout un tas de cosmétiques, hein, de parfums, comme la fève tonka du Venezuela. Vous connaissez cette fève ?
Alors, la fève tonka, oui, elle revient même sur le devant de la scène avec les cuisiniers qui la mettent dans leur cuisine.
D'ailleurs, ça ressemble à quoi physiquement, la fève tonka ?
C'est comme une grosse graine, si vous voulez. Hein. Et elle a cette odeur, enfin, un petit peu à la fois grasse et un peu un parfum difficile à définir. Enfin,
c'est surtout au Venezuela ou uniquement au Venezuela ?
Pas seulement. Non. Il y en a dans tous les pays tropicaux, mais la vénézuélienne semble être particulièrement appréciée.
Là, il semble qu'elle serve à fixer les odeurs d'une certaine façon.
C'est l'intérêt, oui, de certaines de ces produits qui ont des odeurs un peu lourdes, c'est qu'ils peuvent fixer les odeurs et empêcher l'évaporation des ce qu'on appelle les notes de tête, c'est-à-dire les premiers produits qui s'évaporent dans les parfums.
Oui,
et donc
ça leur
donne une durabilité plus importante.
Ouais. Et le bois de santal aussi, donc une
odeur très particulière. Alors le bois de santal, oui, c'est remarquable. Il a été complètement pillé. Maintenant, il est quasiment interdit de cueillir du santal et on essaye des produits de synthèse pour le remplacer. Et il a une odeur tout à fait particulière.
Oui, on y reviendra donc au cours de l'émission. Mais pour commencer, hein, vous êtes neurobiologiste, donc le fonctionnement du nez, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc comment ça marche un nez ?
Alors comment ça marche un nez ? Eh bien, dans notre nez, on a des molécules qu'on appelle des récepteurs, qu'on fabrique nous-mêmes, et qui sont capables de reconnaître les produits odorants. Une fois que cette reconnaissance a eu lieu, les récepteurs stimulent les cellules qui les portent, qui sont des neurones, des cellules nerveuses. Donc qu'est-ce que font les cellules nerveuses ? Elles envoient un courant électrique vers le cerveau, et le cerveau ensuite va traiter ce signal et l'interpréter. Alors d'abord de façon, et c'est ça qui est intéressant, émotionnelle et mnésique, c'est-à-dire un rappel de mémoire, oui. Avant même qu'on ait conscience, qu'on a senti quelque chose.
On dit souvent que l'odorat est le sens le plus lié à la mémoire, c'est-à-dire celui qui nous rappelle le plus de souvenirs. Hein.
Oui, parce qu'à peu près 100-150 millisecondes après qu'on a senti quelque chose, eh bien on a déjà les mémoires qui sont réveillées.
Vous écrivez dans votre livre qu'il y a 400 gènes de récepteurs olfactifs chez l'homme, contre 800 chez le chien et 1200 chez le rongeur.
Voilà, c'est ça.
Donc,
Et même 2000 chez l'éléphant qui vient de sortir cette année.
Ah, l'éléphant, voilà. Et donc un odorat beaucoup plus
Oui, on connaissait développé. La mémoire olfactive de l'éléphant, et la mémoire d'éléphant d'ailleurs est bien connue, mais on a maintenant un support moléculaire à cette mémoire olfactive.
Mais ça n'a rien à voir avec la longueur de sa trompe.
Non, sans doute pas, mais plutôt à sa façon
sans
de vivre.
Sans doute pas, mais peut-être quand même.
Oui, parce qu'il se sert de son odorat dans beaucoup, beaucoup de circonstances. Et il a une mémoire olfactive des gens, enfin, sans doute, entre eux, ils ont une mémoire olfactive fantastique, et à l'égard des humains aussi.
Mais est-ce qu'il y a des récepteurs olfactifs dans la trompe de l'éléphant ?
Non, dans le haut de leur nez, comme chez tous les mammifères.
Et d'ailleurs, dans votre livre aussi, on apprend avec amusement que vous dites que la qualité de l'odorat n'est pas liée à la taille du nez. C'est pas parce qu'on a un grand nez ou un petit nez qu'on a un odorat plus ou moins développé. Hein, ça n'a rien à voir.
Tout à fait, non.
D'accord.
Il y a surtout une question d'entraînement.
D'accord. Et alors, comment définir un parfum ? Donc, un parfum, on pourrait se dire d'une façon, disons, très basique, hein, c'est quelque chose qui sent bon. Hein, mais vous, en tant que spécialiste, vous ne vous contentez pas de dire ça sent bon ou mauvais, en fait. Hein. Donc, comment vous définissez
c'est
un
ça.
Parfum ?
Mais après avoir rencontré beaucoup de parfumeurs, donc ce qu'on appelle vulgairement les nez, mais eux préfèrent qu'on les appelle parfumeurs créateurs, bien, pour moi, avant tout, le parfum est une œuvre d'art. C'est-à-dire que vraiment, comme un peintre, comme un musicien, le parfumeur créateur a composé son parfum dans sa tête avant de le réaliser matériellement.
La technique de création du parfum, c'est quelque chose qu'on va aborder, mais pour l'instant, avant déjà d'entrer dans la matière, hein, essayons de prendre connaissance avec ce sens. Vous dites qu'on peut percevoir 100 000, voire 400 000 odeurs différentes, cela semble énorme, oui. Puisque dans la vie courante, on n'a jamais affaire autant d'odeurs.
Vous avez raison, et tout dernièrement, le chiffre a encore augmenté, puisque des collègues ont publié un article disant qu'on pouvait sentir plusieurs milliards d'odeurs différentes.
Comment on le sait ? Comment on peut estimer ça ?
Comment on le sait ? On sait que, alors je vais revenir un petit peu à des aspects un peu scientifiques et techniques, c'est-à-dire que chacun de nos récepteurs, des 400 types de récepteurs qu'on possède, ne sent pas une seule molécule odorante, mais peut en sentir plusieurs. Un simple calcul combinatoire que peut faire un élève de terminale montre que si chaque récepteur pouvait sentir, mettons, trois odeurs différentes, eh bien, la combinatoire donnerait plus d'un milliard de solutions.
Donc, ce que vous voulez dire, en fait, c'est qu'on a énormément de possibilités olfactives dans notre nez, mais finalement, on ne les utilise pas.
Alors, peut-être qu'on les utilise, mais on en est fortement inconscient.
On ne le sait pas.
Alors, les animaux, par contre, eux, oui.
Ouais, 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 ouais. Écoutons le bois de Chaville, de Henri Descaire, pour une petite promenade olfactive aussi.
Ce jour-là au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés, samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Le lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quatricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences de ce jour charmant, je me sens rempli d'avance d'un très grand tourment. Car par ma faute, il va naître un pauvre ingénu qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu. Le pion, l'adjudant de semaine, le meilleur ami, autant de choses inhumaines, plus qu'il n'est permis. Et des tas de choses inutiles, comme les traités de paix, les savants, les sergents de ville et le chef du budget. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet.
Nous étions au bois de Chaville avec Henri Descaire autour de la question: quel est le secret des parfums, avec le neurobiologiste Roland Salès. Roland Salès, l'odeur du muguet, là, vous évoque quoi?
Oui, alors c'est drôle parce que des collègues allemands ont montré il y a quelques années que les spermatozoïdes de mammifères, aussi bien de souris que de l'homme, étaient attirés par l'odeur de muguet, justement. Qu'il n'y a pas de récepteurs olfactifs que dans le nez, il y en a aussi sur les spermatozoïdes.
Expliquez-nous ça, comment les spermatozoïdes d'abord peuvent sentir l'odeur du muguet et être attirés par l'odeur du muguet? Concrètement, on a du mal à avoir une image de la scène.
Oui, tout à fait. Alors les spermatozoïdes ont un chemin relativement long, plusieurs centimètres à parcourir à partir du moment où ils sont éjaculés, pour retrouver l'ovocyte, l'ovule.
Mais a priori, disons, dans le milieu dans lequel évoluent les spermatozoïdes, il n'y a pas de muguet, à ce que je sache.
Ah, il n'y a pas de muguet, mais il y a peut-être du bourgeonal, qui est un des composants chimiques qui sentent le muguet.
Ah, d'accord.
Et qui serait fabriqué par l'ovule qui attirerait le spermatozoïde.
C'est-à-dire, dans le vagin et l'utérus, ouais, il y aurait des molécules qui ressembleraient à l'odeur du muguet.
Oui, parce que l'odeur de muguet naturel, on n'a jamais réussi à l'extraire. Par contre, on a des substituts comme le bourgeonal dont je viens de parler, qui est un produit chimique qui sent vraiment le muguet.
Et donc, ça les attire, ils vont dans telle région.
Ça les attire, ils vont remonter jusqu'à l'ovule, en partie guidés par cette odeur.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que pour éventuellement les femmes qui pourraient avoir des problèmes de fertilité, on pourrait leur conseiller...
Sait-on jamais, à ma connaissance, ça a été utilisé.
Bon, spéculation pour l'instant.
Tout à fait.
Et depuis quand alors se parfume-t-on? Est-ce qu'on sait si les hommes et les femmes préhistoriques se parfumaient?
Alors évidemment, c'est difficile à savoir. On retrouve dès moins 4500 ans avant l'ère chrétienne des instruments qui auraient bien pu servir à préparer des parfums. C'est attesté dans les manuscrits des pyramides qui datent aussi d'à peu près cette époque. Et puis, plus récemment, on a toutes les chroniques égyptiennes qui montrent combien toute cette civilisation qui a duré des millénaires a été à la quête des parfums d'Orient. En fait, on allait jusqu'aux rives de la mer Rouge et du golfe d'Oman.
Donc c'est quand même très ancien, l'art de se parfumer. Donc en ces périodes de fête, on constate que la publicité pour le parfum est toujours associée à l'idée de séduction. Ça peut paraître évident, mais en fait, a priori, ça n'est pas tant que ça. Pourquoi est-ce que l'odeur est associée à la séduction et la sexualité?
Alors ça, c'est une histoire qui est un petit peu difficile à démêler. Parce que si on se réfère aux animaux qui me sont plus familiers, l'odeur corporelle suffit à séduire au moment de la reproduction. Ça suffit pour attirer le mâle vers la femelle et réciproquement. Dans l'espèce humaine, évidemment, c'est un animal beaucoup plus compliqué, l'homme. Donc on a inventé, en quelque sorte, des signaux sexuels secondaires avec ces parfums qui ne viennent pas forcément recouvrir l'odeur corporelle, mais qui sont éventuellement des signaux de séduction adressés aux autres. Pas forcément de séduction sexuelle, qui peut être simplement une séduction sociale.
Et dans votre livre, hein, dont je rappelle le titre, « Faut-il sentir bon pour séduire ?», vous dites quelque part que tout comme la muqueuse utérine, la muqueuse nasale subit beaucoup moins de changements si la femme prend la pilule. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de parallèle entre la muqueuse du nez et la muqueuse de l'utérus.
Alors, c'est un parallèle qu'on a voulu faire et qu'on a poussé un petit peu trop loin, notamment le médecin de Freud, qui s'appelait Fliss, je crois, avait carrément assimiler le nez à un organe sexuel. Bon, tout ça, on est beaucoup revenu dessus parce qu'en fait, pratiquement toutes les muqueuses de l'organisme chez la femme subissent un cycle d'épaississement et de rétrécissement en fonction de l'état du cycle menstruel. Et quand on prend la pilule, évidemment, ça écrase complètement ces variations.
Donc sans pousser, disons, ce parallèle trop loin, on peut quand même faire des analogies. Hein.
On peut faire des analogies, mais elles sont plus, on va dire, philosophiques ou poétiques que scientifiques.
Est-ce que les femmes ont un meilleur odorat que les hommes?
C'est une question qu'on pose souvent. Alors, on peut dire oui, mais... Alors, oui, parce que quand on fait des tests de détection, de comparaison, etc., on s'aperçoit qu'elles sont plus sensibles à des concentrations plus basses d'odeurs, et qu'elles y font plus attention dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans le système nerveux, justement, l'attention joue un rôle capital dans le niveau d'éveil des sens. Et donc, les femmes sont en général beaucoup plus attentives que les hommes, effectivement, aux odeurs.
Donc c'est dans la tête que ça se passe.
Hein. Surtout.
Comme pour beaucoup de choses, en fait.
Hein,
le plaisir, les odeurs, etc., puisque nous parlons d'amour. Oui, alors justement, on parle aussi des phéromones, ces molécules inconsciemment perçues, mais qui attireraient le partenaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, pour l'instant, on n'a pas trouvé de phéromones qui correspond vraiment à cette définition chez l'homme. Une phéromone, c'est la molécule émise par la femelle du papillon qui, lorsque le mâle a perçu cette odeur, eh bien, il ne fait plus qu'une seule chose, il vole vers la femelle.
Ça marche bien chez le papillon, chez les humains,
voilà.
Pour moi.
Alors, vous n'avez jamais vu un homme à 3 km sentir une femme et courir pour ça.
Dans la littérature, hein, on voit souvent, disons, ce filtre d'amour qui serait un parfum idéal, qui attirerait un partenaire, l'amènerait à tomber amoureux de vous. Ça, c'est pas possible?
Alors, non, ça, c'est pas possible. C'est certain
peut-être
que dans le jeu de la alors peut-être un jour dans le jeu de la séduction, il y a effectivement un jeu entre les odeurs corporelles et le parfum, et ça, les parfumeurs travaillent là-dessus, hein. Mais non, pour le moment, c'est pas possible.
Mais est-ce que une odeur peut être perçue comme agréable dans certaines cultures et désagréable dans d'autres? Est-ce qu'il y a une universalité ou un relativisme olfactif?
Alors oui, ça dépend beaucoup de la culture. J'ai goûté un fruit asiatique qu'on appelle le durian, qui a une odeur absolument répugnante. Enfin, ça sent les excréments, ça sent vraiment le fromage pourri, c'est absolument répugnant. Et quand on y goûte, on est subjugué parce que ça devient sucré, très fruité.
Oui, mais ça, c'est une différence entre, disons, l'olfaction, l'odorat et puis le goût.
Oui, mais n'empêche que, disons, en Malaisie ou à Singapour, eh bien, les gens se ruent sur ce...
Dans votre livre, on apprend aussi qu'au Japon, hein, il est mal vu de se parfumer, par exemple.
Oui, il est même mal vu de sentir. C'est-à-dire, alors très curieusement, les Japonais ont une odeur corporelle beaucoup plus faible que la nôtre.
Et vous dites qu'ils s'offrent des parfums, mais ils ne les utilisent pas.
Oui, alors ils se les offrent, ils se les posent sur une étagère, ou alors il faut qu'ils soient beaucoup moins concentrés que les nôtres. Dans ce cas-là, c'est admis.
Donc il y a des différences culturelles,
oui,
hein, autour de la question.
Absolument.
Nous nous demandons aujourd'hui quel est le secret des parfums. C'est bientôt Noël, c'est bien de comprendre aussi comment ils fonctionnent, ces parfums. Suite dans 3 minutes après le flash d'infos.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Couleur tropicale. Autour de la question. Antonio Fischetti.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie d'Autour de la question « Quel est le secret des parfums ?» avec le neurobiologiste Roland Salès. Donc nous allons maintenant entrer un peu plus dans les secrets de fabrication des parfums, enfin du moins dans une certaine mesure. Mais auparavant, écoutons Daniel Joulin qui est chimiste, président de la société de conseil SCBZ qui travaille avec de grands fabricants de parfums.
Ma fonction, c'est de continuer à m'occuper d'un domaine qui m'a toujours passionné depuis que j'étais étudiant à l'Université de Paris, il y a les années 60, c'est-à-dire les produits odorants d'origine naturelle. J'ai passé mes thèses en chimie organique, c'est-à-dire la chimie, si vous voulez, associée au monde du vivant, que ce soit les plantes ou les animaux.
Et donc, de quelle façon vous travaillez avec les parfumeurs ? Vous n'êtes pas vous-même parfumeur, mais vous travaillez en relation avec des créateurs de parfums.
Oui, les parfumeurs, pour créer les parfums, pour créer ce qu'on appelle les jus, les concentrés de parfums, ils ont besoin d'ingrédients de qualité et de performance voulus, désirés, dans toutes sortes de notes olfactives. Et ces ingrédients peuvent être d'origine purement naturelle, comme ça a souvent été le cas jusqu'à temps que la chimie organique se développe à la fin du 19e siècle, et des produits synthétiques qui ne sont pas venus pour remplacer les produits naturels, mais pour compléter leur performance.
Mais vous intervenez donc en amont, mais de quelle façon exactement ? Puisque dans le film d'Arte sur le bois de Santal, on vous voit intervenir à un moment donné, c'est-à-dire que c'est entre la récupération de la matière première et puis l'industrialisation par le parfumeur, c'est bien cela ?
La matière première, lorsqu'elle est d'origine naturelle, doit subir des traitements, des technologies, que ce soit l'extraction, que ce soit la distillation, que ce soit d'autres procédures de purification, de fractionnement, en vue de présenter au parfumeur un produit qui sera utilisable directement et qui correspondra à ses attentes. Dans le cas du Santal, mais j'aurais pu vous dire la même chose pour d'autres matières premières comme le vétiver ou le cèdre ou des choses comme ça. Dans le cas du santal, l'odeur recherchée, c'est l'odeur typique du bois de santal sans dénaturation. Car il faut savoir que tout produit naturel qui subit des traitements, comme la distillation ou des fractionnements ou des chauffages, risque d'être dénaturé. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un produit final qui soit le plus proche possible, qui rende le plus fidèlement possible le rendu olfactif du produit naturel originel. Donc je pense qu'aujourd'hui, de grands progrès sont en train d'être faits et seront encore faits pour trouver des procédés qui restituent absolument fidèlement l'odeur du produit naturel, que ce soit une fleur ou un bois ou quelque chose comme ça.
Donc ce témoignage du chimiste Daniel Joulin, cela vous évoque quoi, Roland Salès ?
Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a à la fois, je dirais presque, le mythe des ingrédients naturels. Et puis...
Le mythe, c'est-à-dire, c'est-à-dire ça existe
que, oui, bien sûr, ils existent, mais il y en a beaucoup qui ont été, on va dire, épuisés par la quête, notamment de l'Occident, des odeurs. Alors je pense, là, il a parlé du bois de santal, effectivement, maintenant il faut faire des...
Il a été tellement exploité au départ en Inde,
que maintenant c'est interdit de le ramasser. Et donc on fait des plantations.
Oui, mais ailleurs, comme en Nouvelle-Calédonie notamment,
c'est voilà, ce tout à fait. C'est vrai aussi pour le bois de rose, pas le bois de rose des ébénistes, mais le bois de rose des parfumeurs, qui a une odeur de rose, justement, où l'INRA a particulièrement travaillé en Guyane, pour développer des plantations afin d'obtenir, d'extraire les odorants de ces produits naturels. Donc il y a un regain de ce côté-là qu'on peut, disons, assimiler à cette démarche actuelle vers le durable, vers l'équitable.
Oui, on y reviendra justement, disons, de cette dualité entre produits naturels et artificiels. Mais si on s'intéresse aux secrets des parfumeurs, déjà la première chose, c'est d'évaluer les odeurs. Pour évaluer les odeurs, il faut pouvoir en parler, donc il faut pouvoir mettre des mots dessus, les qualifier. Hein, donc comment est-ce qu'on peut qualifier les odeurs, puisque souvent, ça nous est arrivé à tous, hein, en fait, d'avoir en tête une odeur, d'identifier une odeur, mais d'être incapable de mettre un mot dessus.
Vous avez tout à fait raison. Pour les gens du commun, comme vous ou moi, bien, effectivement, on dit toujours « Oh, j'ai déjà senti ça quelque part, ça me rappelle quelque chose », et puis en se rappelant bien, on finit par ça. Oui, voilà. Alors, on finit toujours par se rappeler la maison de mes grands-parents, la tarte de ma tante, enfin, etc. Mais les parfumeurs, bien entendu, ont un langage professionnel entre pour pouvoir
mais c'est
échanger.
Comme s'il y avait, disons, une coupure entre notre mémoire olfactive, hein, puisqu'on se souvient de cette odeur, et puis l'aspect sémantique. Hein. On
tout
a du
fait.
Mal à mettre des mots, à relier les deux.
Bien sûr, c'est parce qu'on n'a aucune éducation olfactive. les gens qui ont une éducation olfactive et qui travaillent pour la conserver, comme les parfumeurs, les œnologues par exemple, eh bien eux, ils arrivent justement à mettre en mots très rapidement
c'est un travail. Donc vous dites la société dans votre livre, la société française des parfumeurs est dite une classification officielle des parfums en 7 grandes familles. Voilà. Donc alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors je vais peut-être pas trop détaillé, mais par exemple, une grande famille, c'est celle des Hespéridés. Alors Hespéridés, pourquoi? C'est le jardin des Hespérides, ces fameuses pommes d'or qui étaient les oranges, qu'Hercule est allé voler.
Il y a quoi dans des oranges?
Alors bien sûr, alors, oui, c'est les agrumes d'une façon générale.
Les agrumes.
Orange, citron, bergamote, donc l'eau de Cologne, hein, c'est le premier parfum moderne, on va dire. Voilà, les floraux. Alors là, les floraux, vous en avez des
ribambelles. Tout ce qui est fleurs.
Voilà, c'est ça, avec la fameuse rose jacquemino.
Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Hein.
Ça, voilà, les fougères, alors ça sent pas du tout la fougère. Hein. Les fougères, ça sent plutôt boisé, foin.
Un peu l'odeur de sous-bois, quoi.
Oui, c'est ça. Et rentre là-dedans la fève tonka, dont on parlait tout à l'heure, qui a été remplacée par la coumarine, donc produit chimique inventé à la fin du 19e siècle. Premier parfum à avoir introduit un produit chimique de synthèse, le fameux Jiki de Guerlain, 1889. Et Guy de Maupassant était fan de la coumarine. Il a écrit...
Donc l'odeur un peu capiteuse.
Oui, c'est ça. C'est un peu grasse, voilà. Et puis, bon, les chypres, alors c'est
dans
pareil.
Dans notre famille, les chypres. Voilà. Chypre, ça veut dire quoi?
Chypre, en fait, ça sent pas du tout l'île de Chypre.
Oui, ça n'a rien à voir avec l'île de Chypre.
Ça vient du nom du premier parfum de François Coty en 1917, qui s'appelait Chypre, où il y avait du patchouli.
Il y a quoi dans cette catégorie?
Alors, dedans, il y a Mitsuko dans les produits récents. Il y a Miss Dior aussi.
Ça, c'est le parfum, mais comme produit naturel, ça renvoie à quoi?
De la mousse, ciste, labdanum, disons...
L'odeur de mousse.
Oui, patchouli, enfin mousse de chêne, hein, pas n'importe quelle
pas
mousse.
Pas la moisissure. Hein.
Oui, non.
Voilà. Le parfum, la moisissure, ça n'existe pas encore.
Ah, si on cherchait bien, la truffe, par exemple, est très prisée, elle a un parfum de champignon.
Eh oui.
Donc voilà, les boisés, alors, dans les boisés, il y a du patchouli, il y a du vétiver, du santal, on vient d'en parler, du cèdre. Donc, un des connus, c'est Vétiver de Carven dans les années 60. Il y a One Million, plus récent, de Paco Rabanne, qui devient nettement plus lourd. Hein, à notre époque, on cogne assez fort. Il y a les senteurs ambrées orientales, qui sont, elles aussi, chaleureuses, poudrées, hein, avec Chalimard, hein, c'est quand même un des plus connus. Poison de Dior aussi. Mm-hmm. On est un peu plus costaud que dans les floraux, évidemment. Et puis les odeurs de cuir. Là, il y a beaucoup moins de parfums aux odeurs de cuir, mais ça sent... Je dirais pas tellement le cuir, mais fumé, sec.
Donc là, en fait, ce sont donc cette grande catégorie, Hespéridés, floral, fougère, chypre, boisé, ambré oriental et cuir. Ouais. On peut dire que toutes les odeurs, grosso modo, tous les parfums, du moins, se rattachent soit à l'une ou l'autre de ces catégories.
Oui, alors c'est comme d'habitude, quand on fait des classifications.
Aussi précis, mais disons, il y a des
subdivisions.
Voilà, ça permet aux parfumeurs d'avoir une base.
Voilà,
donc,
c'est ça.
Mais ensuite, comment est-ce qu'on évalue un parfum? Est-ce que c'est un peu comme un bon vin, d'une certaine façon?
D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que le parfumeur créateur ou le parfumeur évaluateur est capable de retrouver les notes qu'il cherche, ou au contraire, c'est à éviter.
Des notes comme pour une partition de musique.
Oui, si on veut, les mots sont les mêmes et c'est assez vrai. Enfin, on peut comparer un parfumeur à un musicien. Il pratique autant d'heures par jour son instrument qu'est son nez. Et puis, il est capable, effectivement, de disséquer, finalement, cet effluve qui sort du jus.
Donc, il y a tout un vocabulaire. Il y a ce qu'on appelle les notes de tête. C'est quoi?
Alors, les notes de tête, c'est ce qui saute au nez, si je puis dire.
La première sensation.
Voilà, quand on ouvre le parfum, donc en général c'est les molécules les plus volatiles. Alors,
c'est-à-dire qu'ils vont s'évaporer aussi les premières, plus rapidement.
Voilà. Alors c'est à la fois agréable et un problème, parce qu'une fois qu'elles sont évaporées, on récupère les notes dites de cœur.
Ce sont d'autres molécules.
Ce sont encore d'autres molécules, moins volatiles.
C'est-à-dire que ça n'est pas forcément la même odeur qu'on a dans un second temps que celle qu'on a tout de suite à l'ouverture.
Tout à fait. Et donc, il faut en tenir compte quand on fabrique un parfum. C'est-à-dire qu'au cours de la journée, il va changer d'odeur.
Ça dure combien de temps, les notes de tête, à peu près?
Les notes de tête, quelques minutes. Hein.
Donc, quelques minutes ensuite, on passe aux notes de cœur.
De cœur, là, on est, disons, de l'ordre de l'heure.
Oui, une heure ou deux.
Oui,
hein.
C'est ça, voilà. Et les notes de fond, alors là, elles peuvent durer toute
ensuite,
la journée.
Ensuite, les notes de fond, ouais, celles qui restent.
Voilà, les plus lourdes. Toute l'astuce de la parfumerie a été d'associer des molécules de notes de fond avec des notes de cœur.
Oui, puisque quand on va dans une parfumerie et puis qu'on sent un parfum, on se dit tiens, ça nous plaît. Là, on sent la note de tête.
Oui, surtout.
Hein, surtout. Après, on le met sur la peau. une heure ou deux après, on a la note de cœur, mais à la fin de la journée, on sent la note de fond qui peut-être n'a rien à voir avec la note de tête.
Tout à fait, voilà.
Donc c'est assez vicieux finalement, puisqu'un parfum peut être agréable en note de tête, mais pas du tout en note de fond, ce ne sont pas du tout les mêmes molécules.
Complètement. Et les parfumeurs travaillent beaucoup le sillage, c'est-à-dire la durabilité finalement de l'impression de départ.
C'est comme la note de fond, le sillage, c'est un peu la même chose.
Le sillage, justement, c'est la synthèse des trois niveaux de notes.
Oui. Mais alors venons-en à la technique proprement dite. Hein. Comment est-ce qu'un fabricant fait pour créer un parfum ? D'abord, il y a une question évidemment de marketing, hein, mais vous dites on peut avoir des notions abstraites qui sont par exemple le manège de l'enfance ou le voyage dans la lune. Ça ne sent rien a priori.
Oui, voilà, tout à fait. Alors il faut bien voir comment fonctionne la parfumerie. C'est-à-dire qu'il y a des grandes maisons de parfums qu'on connaît, L'Oréal, Lancôme, souvent elles font appel à des maisons de chimie qui leur fournissent les produits, les ingrédients nécessaires au parfum. Et c'est dans les maisons de chimie qu'il y a les parfumeurs créateurs, ceux qui fabriquent les jus, ceux qui sont les artistes.
Il y a toute une relation entre le marketing, l'art du parfumeur et puis la chimie, donc la science, c'est ce qu'on va développer tout à l'heure. Écoutons d'abord Smells Like Funk du groupe Black Eyed Peas.
Must be us, the funk, funk, 4,000 is danger stuff. If it smells like funk, it must be us, the funk, funk, 4,000 is danger stuff. If it smells like funk, it must be us, the funk, funk, 4,000 is danger stuff. If it smells like funk, it must be us, cause nobody's funny as us, cause we keep it stinking. We keep it stinking. We keep it stinking. We keep it stinking.
Under all funk like your headlock in a skunk, reeking like disease, athlete's feet. The stench didn't come till after this beat. Smelling like draws, no reason, no cause. Put your hands up on the speaker, get smelly as paws. You knew we was coming before we entered the door, cause you could smell the rhyme when we was walking down the hall. We bring the funk worse than a wet dog, thinking like fat ladies shitting out logs. We dropping up shit and keep them toilets clogged, the people jumping like them bullfrogs. The first one that smells it ain't the one who built it. Black eyed peas keep the scent flying like Delta. Funky like onions, you crying? Girl, you ain't lying.
If it smells like funk, it must be us. The funk, funk, 4,000 is danger stuff. If it smells like funk, it must be us. The funk, funk, 4,000 is danger stuff. If it smells like funk, it must be us. The funk, funk, 4,000 is danger stuff. If it smells like funk, it must be us. Cause nobody's funny as us, cause we keep it stinking. We keep it stinking. We keep it stinking. We keep it stinking. Stinking, stinking, stinking.
Autour de la question, quel est le secret des parfums avec Roland Salès, neurobiologiste. Donc vous étiez en train de nous expliquer comment on fabrique un parfum. Donc au départ, on part d'un concept. Un concept qui peut être abstrait. Par exemple, manège de l'enfance. Moi, si vous me dites manège de l'enfance, je pense odeur de pneus, de cambouis, d'auto-tamponneuse, de gaufres, de barbe à papa. Mais en fait, ça n'est pas un parfum, ça.
Tout à fait. Et alors justement, tout l'art du parfumeur consiste à répondre à cet appel d'offre qu'on appelle un brief.
Un concept.
Un concept, voilà.
Un concept.
Et comment, lui, dans sa tête, il imagine ce que peut être le manège en sens. Alors, vous avez parlé de barbe à papa. Il y a effectivement un rappel d'odeur de barbe à papa dans
quelque chose, disons, de nostalgique.
Voilà, c'est ça qui rappelle, disons, l'enfance.
Il faut que ça rappelle l'enfance, la nostalgie. Et puis après, c'est l'art du parfumeur de trouver les composants.
Tout à fait.
Et un autre concept aussi abstrait, voyage dans la lune.
Oui, alors il y a même un parfumeur, je ne me rappelle plus son nom, qui a carrément créé l'odeur de la planète Mars. Donc personne n'y
est. Il faut que ça fasse rêver.
Oui,
c'est
absolument.
C'est ça, il faut que ça fasse rêver l'idée. C'est ça, en fait. Et alors, on parle de ce rêve, de ce concept abstrait. Ensuite, Il y a le nez, ce qu'on appelle le nez, le parfumeur, le créateur. C'est quoi son travail exactement ?
Alors les parfumeurs créateurs ont la lourde tâche justement d'interpréter le brief qui peut être abstrait en matière, puisque c'est eux qui vont fabriquer la composition, c'est eux qui vont l'imaginer et tester. Alors ils travaillent chacun de façon un petit peu différente, mais toujours ils essayent d'approcher de la solution qu'ils ont en tête en faisant des mélanges de matières différentes, jusqu'à ce que d'un seul coup...
Mais il y a comme une bibliothèque d'odeurs.
Oui, oui. Tous disent qu'ils ont plusieurs milliers, on va dire, peut-être 2000, 3000 odeurs de référence dans la tête.
Leur tête. Voilà. Un peu comme un compositeur qui voudrait créer une symphonie et qui composerait sur le papier
tout
avant même de sentir cette symphonie olfactive.
On peut vraiment faire la comparaison.
Oui. Et ensuite, alors, ce créateur, lui, il doit faire appel à des chimistes.
Alors, justement, en général, ces parfumeurs créateurs se trouvent justement dans des maisons de chimie qu'on connaît beaucoup moins, comme Givaudan, qui est la première au monde, ou Robertet en France, qui est située à Grasse. Ce sont des maisons qui extraient les produits naturels ou qui fabriquent des produits de synthèse. Et à partir de cette bibliothèque, le parfumeur créateur, eh bien, il va utiliser ces ingrédients pour concevoir le nouveau produit.
Il va dire, par exemple, pour créer mon odeur manège de l'enfance, j'aurais besoin de tant de produits, de tel et tel et tel produit.
Tout à fait, c'est
le
ça.
Chimiste peut utiliser des produits naturels. Il faut ensuite alors les extraire.
Les
si
extraire.
On va prendre de la fève tonka, du bois de santal, comment on fait
parfaitement
pour extraire l'odeur?
Alors maintenant, on utilise des procédés qui sont beaucoup moins destructeurs qu'avant. C'est-à-dire avant, on chauffait, on distillait, etc. Maintenant, on utilise, par exemple, le gaz carbonique super critique. Alors qu'est-ce que c'est ? Simplement le gaz carbonique refroidi à l'état liquide qui sert de solvant et donc ça abîme beaucoup moins les molécules odorantes et donc on peut ensuite l'évaporer facilement, il suffit de le réchauffer à température ambiante et on récupère les molécules odorantes. Donc ça c'est des grands progrès. On utilise aussi les espaces de tête, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre une sorte de cloche sur une fleur par exemple, et puis on fait passer de l'air, et puis sur une petite cartouche de polymère, on récupère les odorants qui sont sortis de la fleur, et après on analyse ça pour trouver ce qu'il y avait dedans.
Donc on a des ingrédients comme en cuisine, d'une
Complètement.
Certaine façon, oui. Et ensuite ça reste quand même un art, c'est-à-dire la science est là au service du créateur, mais ce ne sont pas les scientifiques qui créent vraiment le parfum.
Tout à fait, alors là les scientifiques seraient bien incapables pour le moment de recréer un parfum, ils peuvent aller rigueur regarder avec l'imagerie cérébrale ce qui se passe dans la tête d'un parfumeur, mais ça leur dira pas son secret.
Quel est le secret des parfums ? Si vous êtes à Paris, une idée de promenade au musée du parfum qui vient d'ouvrir le 16 décembre. Charlie Dupiot l'a visité en avant-première, guidé par le directeur du musée, Guillaume de Motion. Préparez-vous à inspirer, humer profondément sur 4 étages d'un style épuré. Le parcours promet d'être sensoriel.
On commence notre visite par l'histoire, naturellement, les racines du parfum. Et pour nous, l'histoire, ça a été aussi une façon d'apprécier l'histoire du parfum au travers des anecdotes entre plusieurs personnages célèbres dans lesquels le parfum a joué un rôle. On rigole un peu de l'histoire, c'est-à-dire que là, Cléopâtre, eh ben, en fait, elle est figurée par Liz Taylor, elle nous fait un clin d'œil.
Et alors, quel rapport entre Cléopâtre et le parfum ?
Alors, l'histoire, elle est marrante. Cléopâtre va rendre visite à Marc-Antoine et vous savez que c'était une grande séductrice. En arrivant au port, elle aurait, ou elle a, je ne sais pas, brûlé de l'encens sur son bateau pour parfumer ses voiles, de sorte qu'il la sente arriver avant même de la voir. Je trouve que c'est une anecdote absolument merveilleuse, avec beaucoup de cachet. Voilà. Ici, en fait, on commence dans la première pièce par raconter les racines du parfum, c'est-à-dire l'Antiquité, comme toujours, ça démarre là. Et donc, on va nous expliquer comment le parfum est utilisé à l'époque, comme une offrande aux dieux, hein. Parfum voulait dire par la fumée. On ne portait pas du parfum sur soi, en réalité on brûlait de l'encens comme une offrande. Et notamment on a reconstitué un parfum qui est amusant, qui est le kifi, qui a été trouvé sur des hiéroglyphes. Quand on s'approche, en fait, vous avez un détecteur de présence et vous pouvez humer cette odeur. Ça a été reconstitué, le premier parfum en fait jamais créé. On brûlait autrefois des encens, notamment. Et le kifi, c'est la première fois qu'on a créé une composition de plusieurs matières premières pour créer une odeur très particulière.
Et ça vous évoque quoi, vous, comme odeur, cette odeur-là ?
C'est une odeur religieuse, non ? Voilà, sont des odeurs très boisées, forcément, très orientales. Et notamment, on va raconter ici, dans ce cabinet de curiosité, d'autres usages du parfum. Et on va vous faire sentir des odeurs. Alors, par exemple, ici, c'est assez amusant. Je vais vous laisser sentir le musc tonka. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça sent un peu le fromage rance, hein.
Ça sent pas très bon.
C'était le message, c'était en fait, on portait ce genre d'odeur pour cacher d'autres odeurs qui étaient bien pires encore, hein, on le sait. Donc on se lavait pas, on sentait très fort. Du musc tonka est toujours utilisé en parfumerie, hein. C'est pas juste pour vous faire sentir une mauvaise odeur. C'est-à-dire que dans les bonnes odeurs, on trouve des très mauvaises odeurs prises individuellement. Ça existe dans plein de parfums, hein, le musc. Et maintenant, on va être un peu plus dans le divertissement. On va nous-mêmes jouer et comprendre les odeurs. Et souvent, on n'est pas capable de mettre un nom dessus, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne les connaît pas. Parce que ce n'est pas une mémoire consciente. Voilà. Et un parfumeur, par exemple, lui, il connaît entre 400 et 500 odeurs. Et on a installé installation qui, moi, je trouve à la fois très belle et très innovante parce que chaque boule est une des odeurs, une des 25 odeurs les plus utilisées par les parfumeurs.
Et du coup, ces 25 boules sont en fait suspendues,
oui,
au plafond.
Elles sont suspendues, c'est une canopée de gouttes, c'est une véritable installation. Et en fait, ça nous permet pour la première fois de sentir les matières premières individuellement du parfumeur. Par exemple, le vétiver, on ne va pas sentir le vétiver dans la nature, c'est très très rare. Il est toujours dans une composition parfumée. Et là, on va pouvoir sentir du vétiver uniquement. Et cette odeur m'est diffusée, voilà, et je l'écoute après. Et une des idées, c'est que vous pouvez, grâce à cela, rentrer peut-être un jour dans une parfumerie en étant capable de dire quel type de parfum vous avez envie de sentir. Le parfumeur crée un parfum dans sa tête parce qu'il a les odeurs et les accords pour créer une odeur. C'est-à-dire que c'est une part des mystères parce qu'on ne peut pas accéder à quelqu'un qui a 400 odeurs en mémoire quand nous, on a des difficultés à reconnaître les odeurs les plus faciles. C'est vraiment des gens, ils font des gammes tous les jours, hein, pour se rappeler les odeurs en mémoire, etc.
Et dans le musée, vous avez pris le parti de montrer des odeurs aussi qui sont pas très agréables. Par exemple, le goût du tabac froid ou le cannabis. Pourquoi ce choix-là ?
Il y a le parfum et il y a les odeurs. Le parfum, c'est des belles compositions, généralement, en tout cas. Et les odeurs, c'est la vie, hein. C'est le quotidien. On aurait pu faire sentir le gaz. Et il y a une odeur qu'on n'a pas dans le musée, moi on va la rectifier parce qu'elle me manque, c'est le kérosène. C'est pas anodin, on est quelque part, hein, on est sur le tarmac de l'aéroport et ça y est, on part en vacances. Et ça évoque quelque chose. Donc c'est ce sentiment qu'on veut donner en disant la puissance d'évocation et d'émotion des odeurs.
Charlie Dupiot, hein, qui revenait du musée du parfum, qui vient d'ouvrir à Paris. Roland Salès, vous avez travaillé donc pour le musée du parfum aussi. Vous faisiez quoi ?
Oui, j'étais dans le comité scientifique qui a réalisé une toute petite partie de l'exposition. Ce qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'on a proposé plein d'idées et les concepteurs ont retenu, je dirais, l'essentiel. Et c'est pour ça que je pense que ce musée, ce n'est pas une accumulation, mais il y a un parti pris esthétique et élégant qui a été pris dès le départ. Et vraiment, la visite se fait de façon très, très intéressante et très, très ludique, sans charger la mémoire des visiteurs.
C'est une initiation, une découverte, hein, une invitation.
Tout à fait. Ça demande une suite.
notre nez. Vous parliez des différences entre les produits naturels et les produits de synthèse, hein, pour les parfums, pour créer un parfum. Quelles sont ces différences ? Est-ce qu'on pourrait se contenter uniquement de produits de synthèse ?
Alors oui et non, les parfumeurs créateurs à l'heure actuelle disent qu'ils ne pourraient pas se passer des produits de synthèse, mais ils ne les utilisent pas seuls, ils font des mélanges qui comportent des dizaines voire des centaines d'ingrédients.
Qu'est-ce qu'ils apportent de plus, ces produits de synthèse ?
Ces produits de synthèse, par exemple,
c'est-à-dire des produits artificiels,
oui,
hein,
c'est ça.
Des produits chimiques en fait.
Alors ils ont deux rôles. soit de remplacer des produits que dans la nature on ne peut plus collecter parce que les espèces qui les fabriquaient sont protégées. Alors on a parlé par exemple du musc tonkin là, à l'instant. Le musc tonkin, c'était un chevreuil porte-musc de l'Himalaya qui a été carrément exterminé parce qu'on cherchait à s'approprier justement.
Donc ce musc, comment on le récupérait?
C'est des glandes anales, c'est-à-dire des petites glandes qui sont situées près de l'arrière-train de l'animal. Et simplement, on ne se fatiguait pas, on tuait l'animal et puis on raclait ses
bourses. Ces glandes n'existent pas chez d'autres animaux?
Non, alors justement, ça n'existe pas. Et donc maintenant, on a fait des muscles de synthèse qui remplacent avantageusement
ce Mais d'autres muscle. Animaux aussi produisent du musc dans leurs glandes anales,
oui.
Mais
de la même façon. Hein. Il y a quelques élevages, effectivement, qui sont faits.
Un mot sur le développement durable pour certaines régions, le parfum, enfin la fève, tonka, le bois de santal, peuvent aussi être une source de revenus. Hein.
Oui, bien sûr. Et il faut bien voir que beaucoup de ces produits sont des produits d'origine tropicale, donc dans des pays qu'on appelle en voie de développement, ou qui ont besoin d'aide économique. Et maintenant, les grandes maisons, pas tellement les parfumeurs eux-mêmes, mais les maisons de chimie, concluent des accords, soit avec les gouvernements, soit avec les villages, pour faire de la culture équitable, etc.
L'émission tout ça. Enfin, un dernier mot, Roland Céleste, comment est-ce qu'on peut cultiver son odorat? Est-ce que ça, c'est un commun muscle? Ça se travaille?
Ah, ça se travaille, incontestablement. Les parfumeurs travaillent des heures par jour, et il faut 10 ans pour devenir parfumeur.
Donc, je rappelle le titre de votre livre, Faut-il sentir bon pour séduire? Je rappelle aussi une revue, alors la revue olfactive née qu'on trouve en librairie, hein, qui est très belle revue, qui sort 2 fois par an. C'était autour de la question que Jérémy Bessé à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous demain, nous parlerons des musées de sciences. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, les infos.
Les grandes voix d'affaires.